Aujourd'hui, dimanche, à nouveau, l'Éternel nous rassemble. Nous sommes venus ici, hommes ou femmes, jeunes, vieux, avec nos tempéraments, avec nos richesses, avec nos faiblesses, avec nos questions, avec Arthur et Mathieu, pour lesquels on souhaite le baptême, et tous aussi différents que nous sommes les uns des autres. Nous convergeons pourtant vers une chose conjointe, l'attente, l'espérance, cette foi en Dieu duquel nous recevons la grâce et la paix, la possibilité pour nous, ce matin encore, de nous placer face à ce qu'il y a de plus ultime, de plus fondamental dans notre vie, et de pouvoir interroger notre existence, de pouvoir lui donner l'occasion de grandir en grâce, en stature, et nous le verrons en sagesse. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier répond indiqué en suivant le livret liturgique jaune qui figure au début du psautier français « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Éternel, toi qui es ma joie, tu es le souffle de ma vie, tu es la source de mon chant, tu es le feu qui m'a saisi. Toi qui es ma joie, toi seul es saint, ton amour est puissance, et grâce à toi, le monde entier prend naissance. Dieu qui est ma joie, tu disperses ce qui est inutile comme la paille au vent, mais tu chéris le malheureux comme un enfant. Dieu qui est ma joie, tu renverses les arrogants, tu dépouilles les suffisants, mais tu combles les petits, tous ceux dont le cœur a faim de toi. Dieu qui est ma joie, tu es fidèle à tes promesses, depuis hier jusqu'à demain. Car ta tendresse n'a pas de fin. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir notre psautier français au psaume 67. Nous prendrons l'harmonisation de Genève, donc l'harmonisation B, pour chanter au psaume 67 les strophes 1 et 2. Thank you. Prenons place. Frères et sœurs, en accueillant les familles Zuber et Perroche ce matin, c'est l'occasion pour notre Église d'accomplir une part de la volonté de Dieu qui s'exprime en ces termes, à travers les mots que Jésus prononce à ses disciples selon l'évangéliste Matthieu. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, méditons ces paroles avec le répond indiqué dans notre livret liturgique. Éternel notre Dieu, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que tu as conclue avec ton peuple dès les origines. Mais bien souvent, nous agissons comme si cette alliance n'avait aucun sens pour nous. Comme si nous n'avions pas compris que c'est une manière pour nous de prendre conscience que nous sommes aimés de manière pleine et inconditionnelle. Bien souvent, nous n'avons pas tenu compte de cette promesse d'être effectivement accompagnés tout au long de notre vie. Et nous vivons comme si l'espérance, la grâce, la foi, la justice, la paix n'étaient que des mots creux auxquels il n'est pas besoin de donner chair. Mais avec cette parole d'institution du baptême, celle que l'Église a retenue, nous entendons à nouveau la force de cette promesse, promesse d'un compagnonnage. Et c'est à cette promesse que nous nous rattachons pour reprendre pied dans notre vie et cesser de fuir nos responsabilités. Amen. Et voici deux paroles qui peuvent retentir en écho à notre prière. Tout d'abord, dans le Premier Testament, un écho de ce que le croyant perçoit de la fidélité de Dieu. Et voici cette parole qui retentit aujourd'hui à nos oreilles. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Je serai votre Père. » Vous serez mes fils, mes filles, dit l'Éternel. Et puis une parole qui retentit dans le Nouveau Testament. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et croit en celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est le parrain de Matthieu qui nous conduit maintenant dans la confession de foi avec ces mots bibliques qu'ils ont choisis.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Nous prenons place. C'est maintenant Édouard Zuber, le père d'Arthur, mais aussi de Théodore et de Louis, qui va nous faire profiter de quelques mots qui finalement montrent de quelle manière l'oratoire du Louvre a un lien en quelque sorte consubstantiel au baptême.
Merci. En ces temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit descendre des cieux ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection.
Alors effectivement les enfants, vous pouvez constater qu'au sommet de l'oratoire, il y a une colombe qui a été installée au début du siècle dernier. Et cette colombe finalement peut nous faire penser à cet épisode où Jésus est baptisé dans le Jourdain. Et pour montrer que le baptême n'est pas simplement une histoire de ciel, les colombes sont également restituées au sol de nos jours, ce qui montre que le baptême peut être aussi un cheminement. Alors, il est d'usage de donner un peu de sens à ce que signifie ce baptême. Et au fond, ce sens, il serait bon que ce soit un jour les parents, parrains et marraines qui le rendent disponible à leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle, Matthieu, toi qui es en âge déjà d'interroger tes parents, parrains et marraines, pour Arthur ce sera un peu plus tard, mais tu pourras lui glisser dans l'oreille qu'il sera bon d'interroger les adultes. Quand cet été, pour les devoirs de vacances de tes parents, parrains, marraines, tu leur demanderas « Mais au fond, pourquoi ai-je été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ?» Eh bien, ce sera peut-être pour eux l'occasion de dire que si tu as été baptisé au nom du Père, c'est parce que tu as été baptisé au nom d'un Père qui engendre la vie. Un Père qui nous rend aussi capables de vivre notre vie. C'est par exemple à travers l'épisode de la sortie d'Égypte, que nous voyons Dieu qui, en permanence, nous libère de ce qui nous empêche de vivre vraiment notre vie. Baptiser au nom du Fils, c'est une manière d'entendre que nous sommes appelés à vivre, peut-être pas à l'image de Jésus, mais en tous les cas selon son dynamisme, d'essayer de suivre un peu l'orientation qu'il a donnée à la vie, de retrouver un peu le sens de la vie de Jésus, et de pouvoir, à chaque fois qu'il y a des difficultés, eh bien, ne pas être écrasé par ces difficultés, mais comme lui l'a montré, vérifier que chaque vie a son processus de mort et de résurrection. Ça signifie parfois des moments où nous sommes en difficulté, et puis des moments où nous arrivons à nous redresser malgré tout et continuer notre route. Baptiser au nom du Saint-Esprit, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à comprendre, le Saint-Esprit. Mais après tout, le baptême est aussi là pour représenter les choses et leur donner un peu plus de compréhension, de compréhensibilité. Après tout, comme l'eau va être tout à l'heure déposée sur ton front et sur celui d'Arthur, eh bien, l'eau qui tombe sur le sol, surtout lorsqu'il est assoiffé, qu'il est desséché, eh bien, peut faire germer la plante. Et cette eau lui permet de porter ensuite du fruit. Eh bien, le Saint-Esprit agit de la même manière. C'est une manière de dire que lorsque nous sommes en relation avec ce que nous appelons Dieu, nous sommes capables, nous aussi, de grandir dans toutes les dimensions de notre vie et de porter du fruit, de porter de beaux fruits. Là, c'est moi qui te le dis les yeux dans les yeux, mais je compte sur toi pour poser vraiment la question à tes parents, parrain et marraine, car chacun est en mesure de pouvoir apporter des nuances, des couleurs qui donneront encore plus d'intérêt à la réponse. Le baptême signifie avant toute chose que nous sommes aimés, et que nous sommes aimés avant d'avoir fait quoi que ce soit pour cela. Le baptême atteste que nous sommes aimés par Dieu avant même que nous l'ayons espéré. Une façon de dire que lorsque nous venons au monde, et chaque jour nous venons au monde, c'est parce que nous sommes appelés par un amour qui nous précède, un amour qui nous appelle nous-mêmes à aimer, un amour qui se transmet, qui se traduit à travers ce que les parents, la famille, les amis nous donnent chaque jour. Nous allons maintenant entendre quelques mots lus par ta marraine, Mathieu, qui sont issus du livre « Le prophète » de Khalil Gibran. C'est aussi une façon d'entendre pour les parents quelques mots qui ne sont pas dénués d'intérêt. Je vous donne maintenant la parole.
Et tu, une femme qui portait un enfant dans les bras, dit « Parlez-nous des enfants. » Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils sont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais non pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Car la vie ne va pas en arrière s'il ne s'attarde pas avec hier. Vous pouvez être les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable.
Quand je disais que l'esprit, c'est ce qui nous aide à porter du fruit, à grandir, il faut bien que tu mesures, Mathieu, à quel point le louveteau que tu es aujourd'hui pourrait un jour devenir ce genre de chef qu'ils ont été en tant que chef de troupe et chef taine de compagnie, sachant que leur trajectoire est loin d'être finie. Mais voilà un peu ce à quoi nous sommes appelés. Il y a aujourd'hui Arthur, qui est encore au biberon. Il y a Mathieu, qui est déjà capable de cet été de faire sa promesse, de s'engager dans ce chemin emprunté par les éclaireurs, les éclaireuses de toute génération, et puis un jour de prendre ses responsabilités, de devenir chef à son tour, et puis fonder une famille, un foyer, aller dans la vie, se lancer. Bon, il n'y a pas de fatalité non plus, tu feras comme bon te semble. Je vais maintenant vous inviter à me rejoindre, vous parents, parrains, marraines, et puis les baptisés aussi. On attend peut-être que Arthur ait un peu fini son biberon, non, on le prend maintenant. Oui. Après tout, il a aussi le droit de protester, c'est pas mauvais signe par ici. Mathieu, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mathieu, l'Éternel tourne son visage vers toi. Il fait briller sur toi sa lumière et te donne sa joie. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, dit Dieu, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. On va le faire sans biberon quand même. Ça me semble plus raisonnable. Arthur, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Arthur, l'Éternel tourne vers toi sa face. Sur toi, il fait resplendir sa lumière. Arthur, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, dit Dieu. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Voilà. C'est ça l'accès à la vie. Chers amis, nous venons de baptiser Mathieu et Arthur. Je vais les présenter un peu à la communauté. Oui, vous reprenez le biberon. Voici Arthur. Et toi, tu as encore l'âge de mon fils pour être porté aussi. Et voici Mathieu. Vous êtes ici chez vous, non pas parce que vous êtes baptisé, mais le baptême atteste que vous êtes bel et bien ici chez vous. Cette communauté est votre famille spirituelle. Cela signifie que vous deux, avec vos parents, parrains et marraines, vous pouvez compter sur le soutien de leurs prières, sur le soutien de leur amitié, en toute situation. Vous avez votre place inscrite à jamais ici même. Vous avez la liberté de l'occuper ou non, sachant que si vous prenez quelques distances, eh bien cette communauté sera témoin de cet amour inconditionnel de Dieu en vous disant que vous y serez toujours les bienvenus. Puis ce sera notre joie qu'un jour vous confessiez avec nous que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors, ce baptême n'est pas le point final de leur histoire spirituelle. C'est une étape sur le chemin de leur vie et c'est la raison pour laquelle nous avons l'habitude de proposer aux parrains, marraines, parents quelques engagements. Alors c'est déjà bien parti pour la famille Perroche, car évidemment ils sont inscrits à l'école biblique, tout va bien. Un de ces jours ce sera le catéchisme aussi, entre les mains des pasteurs. Et puis pour Arthur, ça dépendra déjà du lieu où vous serez. Vous qui avez un peu la bougeotte, après les Émirats Arabes Unis, ce sera peut-être l'Asie du Sud-Est. Bon, nous verrons cela. Toujours est-il que pour l'heure, ce que nous vous invitons, c'est à poursuivre ou à leur proposer quelques éléments qui leur permettront plus tard de pouvoir se déterminer en leur âme et conscience, c'est-à-dire faire connaître à Mathieu et Arthur l'enseignement chrétien contenu dans les textes bibliques, leur permettre de découvrir à travers la catéchèse, à travers la fréquentation d'une communauté, des sensibilités, de faire découvrir des convictions, un capital dans lequel ils pourront puiser eux-mêmes leur propre socle de convictions et de pouvoir, comme je le disais, un jour, adhérer, s'ils le souhaitent, à notre communauté chrétienne qui dépasse largement les murs de l'oratoire, qui dépasse largement l'institution Église réformée de France, qui dépasse largement les frontières du christianisme, puisque le baptême parle de notre humanité pleine et entière. Est-ce bien là ce que vous voulez ? Nous allons maintenant nous recueillir dans la prière, à la fois avec des mots que le père de Mathieu va nous dire, et puis aussi des mots tirés du livre du Lézard, un livre qui a largement accompagné la spiritualité des éclaireuses et des éclaireurs. Frères et sœurs, nous nous recueillons dans la prière.
Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Mathieu et Arthur, qui viennent de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour eux et pour leur famille. Donne à leurs parents et à tous ceux qui auront à prendre soin d'eux, de leur révéler ton amour et de les préparer à te suivre un jour dans la reconnaissance et dans la joie. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour.
Donnez-leur un bonheur comme compagnon de route. Dans la souffrance, comme tous les hommes, je faisais l'apprentissage de la vie. Et durement, je peinais à cette besogne. Lorsque le bonheur est venu, je ne l'attendais pas, ne pensant pas qu'il pût venir. Léger comme un oiseau, il est entré dans ma vie, et depuis, tout est changé. Les choses tristes n'ont pas disparu, ni les choses dures. L'effort est toujours là, impérieux et qui s'impose. Mais il y a ce bonheur qui marche à mon côté et que je tiens par la main. Avec lui, tout est facile. Mon Dieu, puisque vous faites la vie, puisque vous imposez aux hommes ce grave voyage, donnez-leur un bonheur comme compagnon de route, afin que leur démarche soit ailée et qu'ils ne soient pas seuls.
Amen. Je vous invite maintenant à regagner votre place et nous allons nous mettre à l'écoute d'un texte biblique que vous avez choisi pour notre méditation. Lors des week-ends et des camps, les éclaireurs, dont nous avons à l'instant entendu une variation sur le thème du Cantique des Patrouilles et le Chant de la Promesse, n'étaient pas du genre à prendre le livre de Job comme lieu de réflexion. En général, ce sont plutôt les textes des évangiles, ce sont plutôt les récits épiques de l'Ancien Testament qui constituent le cœur des moments spirituels. Mais voilà que Bénédicte et Édouard ont souhaité que ce soit dans le livre de Job, au chapitre 28, que nous lisions quelques versets. Alors pour vous resituer l'ensemble du livre de Job, c'est l'histoire d'un homme à qui tout réussit, un peu au sommet de la gloire en quelque sorte. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir dire que sa vie est parfaite. Et puis successivement, il va tout perdre, y compris la santé. Il ne lui reste plus en quelque sorte qu'un faible filet de vie qui coule dans ses veines. Il a perdu famille, biens, richesses. Et quelques amis viennent pour essayer de le consoler, et on découvre rapidement qu'avec des amis pareils, on n'a pas besoin d'ennemis. Des amis qui, au bout d'un certain moment, en fait, viennent lui faire la leçon et lui dire que s'il est dans cette situation, c'est certainement parce qu'il l'a bien cherché. Et il développe donc une théologie de la rétribution. Et puis, le livre de Job continuera sur des interrogations au sujet de la justice de Dieu, au sujet du malheur de l'humanité. Et nous en sommes au chapitre 28 où nous lisons à partir du verset 9 les versets sur lesquels portera notre méditation. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit « Elle n'est point en moi » et la mer dit « Elle n'est point avec moi ». Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie, elle non plus n'est pas son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Alors, d'où vient la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant? Elle est cachée aux oiseaux du ciel? Le gouffre et la mort disent « Nous en avons entendu parler ». Mais c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières, et nous allons chanter au cantique 204, un incontournable lorsqu'il est question de baptême. Seigneur, dirige et sanctifie les deux strophes. Dieu notre Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, du moins parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Parfois, tu nous parais lointain, effectivement silencieux, mais nous avons entendu parler de toi, et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Nous le lisons dans ce livre que nous appelons la Bible. Nous sommes invités à y redécouvrir le trésor qui a été mis pour chacun de nous. Recevons maintenant cette grâce. Chers frères et sœurs, c'est une banalité de dire que les parents espèrent ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. J'imagine que c'est aussi ce qui préside un peu à vos choix éducatifs. Globalement, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vos enfants. C'est une banalité pour les adultes, mais pour les enfants, les choses ne vont pas toujours de soi. Parce qu'eux ne sont pas toujours convaincus que nos réactions, ce que nous leur proposons en termes d'activité, les rythmes que nous leur imposons, toutes ces petites choses qui peuvent passer pour des tracasseries aux yeux des enfants, eh bien, ils ne prennent pas toujours conscience que toutes ces choses sont arrangées dans la belle et honorable case « c'est pour ton bien ». Et comme à chaque génération, les parents se font du souci pour leur progéniture, et comme à chaque génération, les parents estiment que les temps sont plus durs qu'avant, que c'était quand même plus facile avant, et qu'il faut donc être d'autant plus préparé pour affronter la vie d'adulte. Alors, de quelle manière les parents aident-ils leurs enfants à se préparer pour la suite ? Ce qui revient le plus souvent dans l'esprit, la bouche des parents est la question du métier. Quel métier faire plus tard ? Et j'imagine, Mathieu, que tu dois déjà avoir des parents qui te mettent un peu la pression pour les études qui ensuite te conduiront à un métier. Le métier, c'est à la fois une manière d'obtenir l'argent dont on a besoin pour vivre, mais c'est aussi une manière d'accomplir une grande part de son existence. Les adultes disent se réaliser. Au fond, c'est faire ce qui nous semble bien et parfois même agréable. Alors, pour avoir un métier intéressant, et il n'y a pas que toi, Mathieu, qui est intéressé par cette question dans notre auditoire, pour avoir un métier intéressant, il s'agit d'apprendre des méthodes de travail et d'acquérir des savoir-faire et des techniques. C'est la raison pour laquelle, même à l'école de la rue Madame, il faut bien travailler, messieurs. Et les jeunes, je vous ai l'œil là. Oui. Eh oui. Il s'agit d'être attentifs à ce que les enseignants nous donnent. L'éducation, bien souvent pour les parents, ça consiste à faire des enfants ce qu'on appelle des homo faber, c'est-à-dire des personnes capables de travailler, capables de fabriquer, capables de produire des biens de consommation, de réaliser des œuvres, de faire quelque chose de leurs mains, quelque chose de leur talent, quelque chose de leur intelligence, de faire peut-être progresser la connaissance du réel. L'homme, dans ces conditions, est capable de transformer les montagnes en vallées, de faire passer les autoroutes au-dessus du vide, de construire des barrages, d'éclairer le dessous de la mer. Et si l'auteur du livre de Job avait bien voulu patienter 1500 ans, il aurait pu parler des protons, des quarks, des ultraviolets, de la conquête de la Lune, de Twitters et d'autres joyeusetés techniques. L'auteur du livre de Job aurait pu copieusement compléter sa liste et néanmoins poser la même question, la sagesse. Où se trouve-t-elle? Depuis Job, l'histoire a montré que l'homo faber n'est pas automatiquement doté de la sagesse, qui est le point sur lequel l'ensemble du livre de Job converge. Pour le dire en une formule, on peut découvrir la fusion nucléaire le matin et envoyer une bombe H l'après-midi. La technique ne nous rend pas plus sages. Elle nous donne des moyens plus sophistiqués pour exprimer notre humeur du moment quand ce n'est pas notre folie. La folie, d'ailleurs, sait-on bien ce que c'est? Quand une personne est-elle folle? À vrai dire, nous ne le savons toujours pas. Nous savons calculer la distance entre Mars et la Terre. Peut-être même savons-nous calculer le poids de Mars. Mais nous ignorons ce qu'est la folie. Alors, comme le philosophe Pascal, nous pouvons considérer que nous sommes tous fous, ou alors décider d'une limite à partir de laquelle quelqu'un doit être déclaré fou. Mais à vrai dire, même les psychiatres, ou surtout les psychiatres, ne retiennent pas ce terme qui est assez imprécis pour être, selon eux, non scientifique. Ceci pour dire que la technique, si elle est précieuse, pour améliorer nos conditions de vie, par exemple, n'est pas suffisante pour nous faire accéder à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Elle n'est pas suffisante pour nous faire accéder à la meilleure part de nous-mêmes. Ce que la langue biblique nomme la sagesse. Alors, il n'y a là, dans mon propos, aucune dépréciation de la technique, aucune dépréciation du travail en général, aucune dépréciation des efforts déployés par les uns et les autres pour être de bons artisans, de bons ingénieurs, de bons scientifiques, de bons artistes. Mais il y a là, dans le texte, un avertissement pour ne pas faire de l'homo faber l'homme accompli. Il ne suffit pas d'être diplômé pour avoir accompli sa vie. Il ne s'agirait pas non plus de faire du travail une sorte d'idole à laquelle il faudrait tout sacrifier. Bon, je sais que vous en êtes conscient, mais c'est pas parce qu'on le dit qu'on le fait. La sagesse est ailleurs, nous dit Job. Alors, dans nos milieux, tout par paillot, les parents misent sur un autre aspect de la vie, la religion. Non seulement nos parents nous imposent d'apprendre sérieusement un métier, mais ils nous donnent l'occasion d'avoir une religion. Mon fils, tu seras baptisé, tu iras au culte, tu recevras ton instruction religieuse, tu connaîtras des textes bibliques, des prières, tu mangeras le pain et tu boiras le vin de la Seine, et tu sauras chanter « À toi la gloire » les yeux fermés. Cette fois, ce n'est plus l'homo faber, c'est l'homo cultor, celui qui pratique le culte. C'est du latin pur jus, hein. C'est celui qui sonde le Nil, qui consulte la mer, c'est celui qui offre argent, or, onyx, saphir à la divinité, autant de pierres précieuses et de métaux rares que le grand prêtre ensuite porte sur son pectoral. Ce sont là les pratiques cultuelles du Proche-Orient ancien qui sont évoquées par Job, sans être pour autant disqualifiées, mais néanmoins jugées étrangères à la sagesse. Les rituels ne transmettent pas la sagesse non plus. Les rituels ne sont pas une garantie d'accéder à ce qu'est l'humanité vraiment accomplie. La semaine dernière, Jean-Luc Mouton, l'ancien directeur de réforme, était parmi nous. Il a commencé sa mission en Côte d'Ivoire et il nous racontait son effarement en constatant que des personnes qui participent au même culte, comme là ce matin, sont capables de se voler mutuellement. Ça, par exemple, ce n'est pas sage. Mais cela montre que les rituels ne sont pas magiques. Le culte n'offre pas la sagesse de manière automatique. Et la culture, au sens large du terme, ne suffit pas à nous rendre véritablement humains. En une formule que j'emprunte cette fois à George Steiner, l'histoire nous a montré que on peut jouer Chopin le matin et allumer les fours crématoires l'après-midi. L'échec des rituels est de même nature que l'échec de la technique. L'homme, par ses propres efforts, ne peut accéder à la sagesse. Cela, l'apôtre Paul le dira à sa manière, en affirmant qu'on peut avoir une science hors du commun, la capacité de transporter les montagnes, donc une technique parfaite. On peut aussi distribuer ses biens pour la nourriture des pauvres, se faire brûler à la manière des martyrs, donc avoir la forme convenable de la religion. Si nous n'avons pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas. L'homo faber, l'homo cultor ne sont pas homo sapiens, systématiquement, du moins au sens biblique du terme. Voilà ce qu'explique le livre de Job en précisant que la sagesse n'est pas sur la terre des vivants. La sagesse n'est pas dans la technique, elle n'est pas dans la culture, elle n'est pas non plus génétique, elle n'est pas sur la terre des vivants. Il n'y a pas un petit gène de la sagesse que l'on se transmettrait de génération en génération. Parce que la sagesse n'est pas une chose, ni une liste de choses. Du coup, la sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait conquérir en faisant une introspection de soi. La sagesse, ce n'est pas simplement un retour sur soi. Parce qu'au fond de soi, on ne trouve pas non plus la sagesse. La sagesse ne consiste pas en un petit quelque chose qui serait caché, qui serait réservé à des initiés. En disant que la sagesse est cachée aux yeux des vivants, le livre de Job veut nous révéler qu'elle n'est pas visible, parce qu'elle n'est pas dans le domaine du sensible, parce que la sagesse, ce n'est pas un quelque chose. Parce qu'elle n'est pas dans le monde des vivants, la sagesse est donc autre chose que ce quelque chose que nous pourrions posséder. Parce qu'elle n'est pas dans le monde des vivants, ce n'est pas quelque chose que nous pourrions acquérir. Parce qu'elle dépasse la science, on ne peut pas la définir. Parce qu'elle dépasse le culte, on ne peut pas la représenter. Et au fond, pour mieux comprendre ce que cela signifie, nous pouvons faire appel à un maître de la sagesse, sagesse qui n'est pas biblique au sens du terme, mais qui fait largement écho à ce qu'expriment les textes bibliques. Confucius, ce chinois contemporain du rédacteur final du livre de Job, qui affirmait au sujet du sage, il est sans idée. Le sage est sans idée. Alors vous pensez bien, Confucius ne veut pas dire que le sage serait un idiot qui n'a aucune idée. Ce que Confucius veut exprimer, c'est que le sage n'a aucune idée en particulier. Il n'en privilégie aucune au détriment d'une autre. Il n'est donc pas prisonnier d'une idée en particulier, et parce qu'il n'a aucune idée plutôt qu'une autre, le sage est celui qui peut les avoir toutes. La sagesse n'étant pas là, immédiatement disponible, immédiatement saisissable. La sagesse consiste en fait dans l'art de sortir de nos habitudes, de nos coutumes, de nos modèles, pour fréquenter d'autres référentiels. Et c'est là d'ailleurs que nous retrouvons notre thème de la folie, présent aussi sous la plume de l'apôtre Paul, qui parle de la sagesse de Dieu comme d'une folie pour les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un changement de référentiel. Et qu'au fond, la sagesse, c'est ce qui nous fait sortir d'un univers, celui que nous connaissons bien, celui dont nous avons l'impression qu'il est sous contrôle, celui que nous maîtrisons. Il nous fait sortir de cet univers familier pour nous faire accéder à un autre univers. On pourrait dire éventuellement une autre dimension. La sagesse, c'est finalement le fait que nous acceptions que Dieu nous place dans une posture conquérante, qui nous fasse sortir de notre univers si familier. La sagesse, une posture conquérante qui finalement est une sorte de rupture avec le déjà là, le déjà prêt, le déjà prêt à penser, le déjà prêt à vivre. Il paraît que l'histoire ne repasse pas les plats. Eh bien, dans une certaine mesure, c'est heureux parce que la sagesse biblique n'est pas une manière de réchauffer les bons plats d'hier ou de savoir à coup sûr ce qu'il faut prendre au menu. L'ensemble du livre de Job, depuis les premiers chapitres jusqu'à la fin, va être en fait le creuset d'une protestation. Une protestation contre les réponses toutes faites, celles que les amis de Job vont venir lui apporter comme cadeau. C'est une protestation contre les formules de catéchisme qui prétendent détenir la vérité. Le livre de Job est en fait l'éloge de la protestation contre la pensée commune des amis qui voudraient ramener Job à leur raison. Le livre de Job est l'expression d'une révolte qui est portée au plus haut point de ce qu'un homme est capable de faire. La révolte de Job est portée au statut de sagesse aux yeux de Dieu, qui jugera que Job a bien parlé contre ses amis arc-boutés sur leur science et sur leur culte. La sagesse qui émane de ce livre de Job fait de Job une figure de sage, une figure d'homo sapiens. Et elle nous indique que la sagesse, c'est finalement deux choses. C'est un rapport décomplexé et un rapport iconoclaste à l'égard du monde. Décomplexé parce que Job n'hésite pas à remettre en cause les orthodoxies de l'époque, en vertu de ce qu'il expérimente, lui, Job, qui n'est plus grand-chose qu'un bout de chair sur un tas de fumier. Eh bien, ce bout de chair sur un tas de fumier, ce qu'il expérimente, a autant, si ce n'est plus de poids, que la science érudite de ses amis théologiens. Pourquoi ? Parce que lui fait vraiment l'expérience. Ce n'est pas simplement un savoir livresque, ce n'est pas simplement une technique, mais c'est une disponibilité au monde. Et cela est la vraie sagesse. Il a donc un rapport décomplexé au monde. Il est capable de porter la contradiction à des officiels de Dieu, et ce qu'il dit est loin d'être sans valeur. Iconoclaste, parce que Job casse les idoles, toutes ces idoles qui n'ont plus rien à dire, plus rien à nous apprendre sur ce qu'est la vie. Des idoles qui ne nous aident pas à vivre. Des idoles qui, effectivement, sont des points de repère fixes, bien connus de tous, mais qui, en fait, ne sont plus dans la vraie vie. Ce sont des points de repère qui ne sont que dans les salons où l'on fait de bonnes discussions. Et Job ne vénère pas les reliques du passé, aussi glorieux soit-il. Sa sagesse consiste à interroger le réel, à s'ouvrir à tous les possibles qui s'offrent à lui, avant de choisir la voie la plus juste, avant de choisir son Tao. Et parce qu'il prend conscience qu'il est sage de fréquenter l'Éternel pour trouver la bonne dimension de son existence, Job va changer de référentiel. Il va changer d'image de Dieu. Il va abandonner le Dieu de la rétribution. Il va abandonner le Dieu qui récompense les justes et qui punit les méchants. Job va changer de référentiel à l'égard de Dieu, c'est-à-dire à l'égard de l'être, c'est-à-dire à l'égard de sa propre existence. Il meurt d'une compréhension étriquée de ce qu'est la vie et ressuscite, et avec lui son histoire familiale, de manière ultime au dernier chapitre. Il ressuscite avec une foi que les professeurs Picon et Gagnebin qualifieraient à juste titre de foi insoumise. Parce que la sagesse que développe Job n'est pas une gymnastique pour nous apprendre à nous courber sans trop de douleur. Ce n'est pas non plus une discipline qui nous apprendrait à avaler les couleuvres sans nous étrangler. La sagesse de Job est animée par cette foi insoumise qui dit non à ce qui opprime l'humanité ou à ce qui lui fait croire dans des chimères, pour dire oui à ce qui la libère, à ce qui lui permet d'entreprendre librement. La foi biblique est insoumise parce qu'elle tire son autorité de Dieu, et dès lors, le croyant découvre qu'il n'a plus rien à conquérir, rien à mater, rien à soumettre, parce qu'il a déjà reçu de Dieu ce qu'il est nécessaire pour lui dans son existence. Et c'est bien le sens du baptême. Et c'est la raison pour laquelle il est heureux que les baptêmes n'interviennent pas trop tard dans la vie des enfants. C'est une manière de dire que vous partez équipé dans la vie. Vous avez en vous ce qui sera nécessaire pour avoir une vie formidable. Il n'y a pas besoin d'écraser les autres, de prendre leur place. Vous partez équipé. Vous n'avez plus qu'à faire valoir vos talents maintenant. Mais aussi, restez disponible à ce que la vie peut vous offrir. Parce qu'on ne vient pas une fois au monde. Même la sage-femme de mère d'Arthur pourrait le dire. Les parents n'accouchent pas une seule fois dans leur vie, mais les enfants ne viennent pas une seule fois non plus dans le monde. Ils ne cessent de venir au monde. Voilà pourquoi cette sagesse est une manière pour nous de changer de référentiel. C'est que nous avons en permanence besoin de faire mourir un monde et d'en ressusciter un nouveau. Nous avons besoin de changer souvent de référentiel pour ne pas nous habituer à nos prisons, pour ne pas nous habituer à nos captivités. Martin Luther, lorsqu'il écrit son traité sur la captivité babylonienne, fait un véritable travail de réforme au titre de révolution copernicienne parce qu'il change de référentiel. La philosophie des Lumières est une manière aussi de changer de référentiel. Les théologiens protestants du XXe siècle changent de référentiel et chacun de nous est appelé à changer de référentiel régulièrement. C'est peut-être ce qui distingue la morale de l'éthique, c'est que l'éthique est une manière pour nous de changer de référentiel, non pas pour suivre les effets de mode, mais parce que la vie évolue, que la vie bouge, qu'elle grandit, qu'elle mute, qu'elle se transforme, et qu'il faut donc aussi transformer, métamorphoser notre éthique. Au fond, la sagesse, qui a un lien étroit avec l'éthique telle qu'elle est comprise dans le protestantisme, la sagesse qui nous fait changer de référentiel, c'est la seule qui soit capable, je pense, de nous permettre d'affronter la vie sous tous ses aspects. La seule qui soit en fait capable de nous permettre de faire face aux événements absurdes, ceux qui n'ont pas de cause précise, ceux pour lesquels il n'y a aucun coupable identifiable. Au fond, cette sagesse qui nous permet de changer de référentiel, c'est une sagesse qui travaille sur les discontinuités. Et il serait assez illusoire de penser que la vie est tout à fait linéaire. Et lorsqu'il y a des discontinuités, lorsqu'il y a des ruptures, lorsqu'il y a des cassures, c'est alors que cette sagesse est efficace pour nous aider à continuer à inscrire notre vie dans le quotidien. Cette sagesse nous permet de faire face à ce qui nous arrive parfois et qui en fait n'est rattachable à rien du tout. Au fond, cette sagesse est efficace quand on est renvoyé à nulle part, que c'est l'inconnu, que c'est extravagant, que c'est extraordinaire. Que les montagnes se mettent à s'effondrer. Que les collines se mettent à chanceler. Et au fond, cette sagesse est efficace pour nous aider à surmonter ce qui est franchement inhumain dans notre histoire. Et suffisamment inhumain pour que cela ne puisse pas se résoudre avec nos moyens trop humains. La sagesse de Job, c'est une promesse. C'est la promesse que nous sommes capables de traverser l'horreur. Mais la sagesse de Job n'est pas une recette de cuisine qu'il suffirait de reproduire à l'identique. C'est une promesse que, lorsque nous sommes affrontés à des choses qui nous semblent hors de nos capacités, nous avons, en fait, les moyens d'aller au-delà de nos capacités. C'est donc à ce prix que cette sagesse nous permet d'assumer les discontinuités de la vie, les moments de rupture, les moments de pure folie. Amen. C'est maintenant le moment de se lever pour chanter notre hymne national. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à notre communauté, sachez que même l'équipe italienne de football est jalouse de l'enthousiasme que nous avons lorsque nous chantons « À toi la gloire » et je crois que Buffon s'inspire d'ailleurs de notre passion lorsque lui-même commence les matchs. Alors, nous chanterons les trois strophes de notre cantique favori. Prenons place. Je vous suspecte d'être un peu déjà en vacances sur la question du chant, là, tout de même. Dans les informations à partager, tout d'abord, dans les familles, cette semaine, nous avons eu l'occasion d'entourer la famille de Marie-Suzanne Zwang, qui est décédée cette semaine. Et je pense que pour vous, Georges, ce fut ce matin l'occasion, avec ses baptêmes, de pouvoir aussi célébrer la vie et de pouvoir aussi voir que notre communauté est là pour célébrer ce qu'il y a de beau et ce qui vous fait plaisir. Donc c'est aussi, non pas une manière de compenser, mais une manière aussi de pouvoir faire un pas de plus. Dans notre agenda, cette semaine, il y a les mercredis de l'été. Chaque mercredi de juillet et août, de 12h30 à 13h30, à la maison presbytérale, nous aurons une lecture biblique sur des duos un peu contrastés. Et donc, mercredi prochain, ce sera sur Abraham et Isaac, avec le récit de Genèse 22 de la ligature d'Isaac par Abraham. Dimanche prochain, notre culte à 10h30. À la sortie du temple, il y a des éclaireurs de la patrouille des loups. Vous étiez de quelle patrouille, vous tous ? Le léopard, patrouille des léopards. C'est un peu facile. Donc, sachez que les loups sont à la sortie du temple pour vendre quelques gâteaux qui leur permettront de pouvoir acheter du matériel pour leur camp d'été. La clairière, ce centre social qui a été fondé il y a une centaine d'années par notre communauté, et plus particulièrement par le pasteur Wilfred Monod, a eu son assemblée générale la semaine dernière. La situation est extrêmement compliquée parce que les situations financières des centres sociaux sont extrêmement précaires. Donc je ne vais pas vous faire larmoyer sur la situation financière de la clairière qui mériterait votre attention néanmoins, mais vous dire que le président Christian Dubreuil et le trésorier Alain Moineau, qui sont de notre paroisse, font vraiment un travail colossal pour travailler sur une restructuration de la clairière, éviter trop de licenciements et permettre que le cœur de l'activité soit non seulement préservé mais développé. J'attire votre attention sur le fait que nous aurions besoin de bénévoles, bien sûr, mais plus particulièrement d'une assistante ou d'un assistant de direction qui pourrait aider le directeur de la clairière, Gilles Petitgat, pour ses dossiers, pour son secrétariat. Nous n'avons pas les capacités financières d'embaucher un assistant ou une assistante de direction. Si quelqu'un parmi vous, jeune retraité ou personne ne travaillant pas, était disponible pour cela, mettez-vous en relation avec moi, je ferai la mise en relation ensuite. Voilà, la clairière, c'est vraiment un outil formidable. 40 salariés, 200 bénévoles, 2000 personnes qui chaque année bénéficient du travail des personnels de la clairière. 2000 personnes chaque année. Voilà, essayons de faire en sorte que on ait encore 100 ans d'histoire devant nous. C'est l'heure pour nous de donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour accomplir ses propres missions. C'est le moment de l'offrande. Que cette offrande soit pour nous l'expression de notre espérance.